Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Et Kabato avec vous en direct de Washington pour Le Monde. Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. Bonsoir à tous. Voici les titres. En République démocratique du Congo, suspension de la campagne électorale dans la province de Kinshasa. Au Togo, les électeurs sont appelés aux urnes demain. L'opposition appelle, elle, au boycott des législatives. Au Burkina Faso, le général Djibril Bassolé appelait des non-coupables à son procès sur son rôle présumé dans le putsch manqué de 2015. Facebook a partagé des données privées avec Netflix, Spotify, Microsoft et Amazon selon le New York Times. Ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Prenons la direction de la République démocratique du Congo où la campagne électorale a été suspendue à Kinshasa alors que l'un des candidats de l'opposition, Martin Fayulu, devait tenir un meeting. La police a d'ailleurs dispersé ses partisans à l'aide de gaz lacrymogène. Abdourahmane Dia, les autorités avancent des raisons sécuritaires pour justifier cette suspension de la campagne.
Bonsoir à tous. Je reviens en fait de la place publique qui sert aussi de terrain de football aux jeunes du quartier où cette place publique où Martin Fayulu devait tenir son meeting de campagne. C'est donc la déception, mais il y avait également de l'ambiance, une ambiance bon enfant avec quelques milliers de militants qui dansaient au rythme de la musique, mais il n'y avait pas l'ombre de leur champion Martin Fayulu. Aux dernières nouvelles, il était toujours bloqué à l'entrée de la ville de Kinshasa avec son cortège. Donc, il y a une ambiance de l'ambiance de fin de campagne que certains espéraient ici à Kinshasa n'aura finalement pas lieu. Comme vous le dites, le gouverneur de la province a évoqué des raisons sécuritaires.
La Cour d'appel de Paris rendra sa décision le 31 décembre sur la demande de remise à la Cour pénale internationale d'un ex-chef de milice centrafricaine. L'arrestation de Patrick Edouard Ngaïsona est intervenue quelques semaines seulement après la remise à la Cour d'un autre ex-chef de milice anti-Balaka, Alfred Yekatom. Les groupes dits d'autodéfense anti-Balaka avaient décidé de se retirer du processus de désarmement suite à cette dernière arrestation. Les Togolais iront aux urnes demain pour élire 91 députés à l'Assemblée nationale. Ce scrutin est contesté par la coalition de 14 partis d'opposition, des législatives dont le report a été demandé par différentes couches de la société. À la veille de ces législatives, le point avec notre correspondante à Lomé, Kailosson.
La journée de trêve avant le vote de demain est observée dans le calme à Lomé. Des forces de l'ordre et de sécurité quadrillent la ville. Des agents de la force sécurité élection 2018 sont visibles aux différents carrefours, appuyés par des militaires qui font des patrouilles en deep. Ce mercredi, le ministre de la Sécurité, le général Yak Damhan, a fait le point des 15 jours de campagne électorale. Environ 1900 meetings ont été organisés à travers tout le pays. Il a annoncé que dans la nuit du mardi à mercredi, le siège de la commission électorale locale indépendante Moïmono a été victime d'un incendie. L'incendie n'est pas d'origine criminelle, a relevé Yak Damhan, soulignant que le feu était parti de l'intérieur. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer, mais les agents en faction au niveau du siège ont pu sauver les fichiers électoraux et les deux urnes dans lesquelles se trouvaient les votes des militaires. Certaines organisations de la société civile et l'opposition appellent les Togolais à se terrer chez eux demain et ne pas aller voter. Kailosson, VOA Afrique, Lomé.
Au Burkina Faso, le général Djibril Bassolé, soupçonné d'être l'un des cerveaux du coup d'État manqué de 2015, a plaidé non coupable lors de sa première comparution au procès. Les précisions de notre correspondant Lamine Traoré.
Je ne reconnais pas les faits. Je plaide non coupable, a déclaré à la barre ce mercredi matin tout de blanc vêtu Djibril Bassolé, l'ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré. Mais ses avocats demandent la parole et exigent un sursis. Nous voulons attirer votre attention sur l'instruction en faux, sur un certain nombre d'actes de la procédure. Il s'agit du rapport d'expertise et de la prestation de serment de l'expert, a indiqué Maître Dieudonné Bonkongo, l'un de ses avocats. Nous avons déposé une plainte au parquet pour faux, a-t-il noté. La partie civile explique n'avoir reçu le document que ce mercredi. Djibril Bassolé est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires, trahison. Une bande sonore issue d'écoutes téléphoniques implique le général Bassolé et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est justement l'expertise de ces écoutes que ses avocats rejettent. Le tribunal rendra sa décision sur la demande de sursis vendredi. Mais le procès lui-même sera suspendu du 21 décembre au 7 janvier 2019. pour raison de fête de fin d'année. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Une télévision privée du Cameroun qui avait fait faussement annoncer fin octobre la mort du président gabonais Ali Bongo Ondimba, alors hospitalisé en Arabie Saoudite, a été suspendue ce mercredi pour un mois, a annoncé le régulateur camerounais des médias. Les Malgaches ont voté pour élire leur président dans un second tour aux allures de revanche entre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les opérations de dépouillement ont débuté. Les deux finalistes ont voté dans la capitale Antananarivo. Je suis confiant, je pense que le peuple malgache tranchera une bonne fois pour toutes celui qui dirigera le pays, a déclaré Ange Rajoel. Avec la participation de tout le peuple malgache, j'espère que l'on va changer Madagascar, a affirmé pour sa part Marc Ravalomanana. Le vote s'est fait sans incident avec une abstention en légère progression par rapport aux 47,7% enregistrés lors du premier tour selon les indications. Il y a 4 à 5% de participation en moins, a noté Christian Preda, chef de la mission d'observation de l'Union européenne. Hier, Marc Ravalomanana a assuré qu'il respecterait les résultats à condition qu'il n'y ait pas de fraude. Nous allons attendre le résultat dans la paix et la sérénité. Je suis un démocrate et j'accepterai le verdict des urnes, a répondu son adversaire. Ange Rajoel était en tête à l'issue du premier tour avec 39% des suffrages contre 35% pour Marc Ravalomanana. Lors des deux semaines de campagne, les deux frères ennemis ont laissé libre cours à leur rancune personnelle. Ils avaient tous deux été interdits de candidature en 2013 à la faveur d'un accord de sortie de crise.
En Éthiopie, 10 personnes ont été tuées et une autre blessée dans l'explosion d'un engin piégé au passage de leur minibus dans une zone de l'ouest du pays, en proie à des violences intercommunautaires, a rapporté la télévision EBC proche du pouvoir. Abdiaziz Hassan Mohamed, un ancien ministre de l'actuel gouvernement fédéral somalien, a été élu à la tête d'un des États fédérés du pays en l'absence d'un des candidats déclarés, un ex-haut responsable des islamistes Shebab arrêté avant le scrutin. Cette élection a notamment été marquée par la tentative d'un ancien haut responsable des Shebab, Mukhtar Robo, alias Abu Mansour, de se présenter. La justice sud-africaine a émis un mandat d'arrêt contre Grace Mugabe, l'épouse de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, dans le cadre d'une affaire d'agression contre une mannequin sud-africaine. L'incident a eu lieu à Johannesburg en 2017. La Côte d'Ivoire a demandé à son tour à la France la restitution de 148 œuvres d'art africain, a annoncé le ministre de la Culture ivoirien Maurice Bandaman. Le Djidji Ayokwe, célèbre tambour parleur ébrié qui est actuellement au musée du Quai Branly à Paris, fait partie des objets demandés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a estimé mercredi avoir atteint son objectif en Syrie, qui était de vaincre le groupe État islamique, semblant confirmer des informations selon lesquelles il envisagerait de retirer les troupes américaines déployées sur place. Sans tarder, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël, informé par avance par les États-Unis, allait étudier les retombées d'un retrait américain de Syrie, mais saurait se défendre contre les éventuelles menaces venues de chez son voisin. Par ailleurs, le Premier ministre israélien a pressé l'ONU de condamner le Hezbollah après la découverte de tunnels infiltrant Israël à partir du Liban et de faire pression sur Beyrouth pour qu'il mette fin aux agissements du mouvement chiite libanais. L'État hébreu a lancé le 4 décembre dernier une vaste opération de détention et de destruction de tunnels de son côté de la frontière. Il dit avoir localisé 4 souterrains jusqu'ici. Monsieur Netanyahou a par ailleurs qualifié ces souterrains d'actes de guerre de la part du Hezbollah, l'un des grands ennemis d'Israël. Le Conseil de l'Union européenne enquête activement sur le piratage pendant plusieurs années de milliers de cadres diplomatiques de l'Union européenne, révélé par le New York Times. Ces câbles diplomatiques montrent notamment l'inquiétude de l'institution à l'égard de l'administration Trump, de la Chine ou de la Russie, affirme ce mercredi le New York Times. Par ailleurs, le quotidien médias américains a également révélé que Facebook a partagé les données de ses utilisateurs au bénéfice de géants du web comme Amazon, Spotify, Microsoft et Netflix. Le réseau social s'est forcé ce mercredi de minimiser la portée des nouvelles accusations mises à jour par une enquête du New York Times. Facebook affirme de son côté que ses utilisateurs avaient dû au préalable explicitement donner leur accord. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a voté le budget de l'État 2019 qui se chiffre en recettes à 1954 milliards de francs CFA contre des dépenses estimées à 2213,290 milliards de francs CFA, soit un déficit de plus de 259 milliards de francs CFA. Les dépenses de fonctionnement occupent près de 71% des dépenses totales, avec une prédominance de la masse salariale qui s'élève à environ 836 milliards de francs CFA. Au Nigeria, 8,8 milliards de naira, c'est le budget 2019 que le président Muhammadu Buhari a présenté au Parlement. Il est en légère baisse par rapport à celui de l'année dernière, qui était de plus de 9,1 milliards de naira. Le nouveau projet est censé permettre au gouvernement de continuer ses efforts de développer l'énergie, les routes et les projets ferroviaires, ainsi qu'à éradiquer la pauvreté. Au Nigeria, 8,8 milliards de naira, c'est le budget 2019 que le président Muhammadu Buhari a présenté au Parlement. Il est en légère baisse par rapport à celui de l'année dernière qui était de plus de 9,1 milliards de naira. Le nouveau projet est censé permettre au gouvernement de continuer ses efforts de développer l'énergie, les routes et les projets ferroviaires, ainsi que d'éradiquer la pauvreté.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Eka, bonsoir à tous.
Le TP Mazembe termine la phase aller de son championnat invaincu.
Oui, le club de Lubumbashi a dominé AS Dragon 3-0 lors du match de la 14e journée disputée hier. Les Louchois confortent ainsi leur leadership dans ce championnat. Mazembe termine la phase aller de son championnat invaincu avec 14 victoires et 1 nul au compteur, avec un total de 43 points qui assurent aux hommes de Pamphile Miayo de virer en tête à mi-parcours. Une bonne chose avant un déplacement délicat en Zambie samedi en 16e de finale de la Ligue des Champions. Vainqueur du Zesco United 1-0 à l'aller, les coéquipiers de Trésor Mputu devront défendre ce petit avantage pour se qualifier.
Roger Lemaire revient aux affaires à l'Étoile du Sahel en Tunisie.
Déjà passé par le banc de l'Étoile sportive du Sahel en 2013-2014, Roger Lemaire va reprendre du service au micro de la radio nationale Kaïs Hachour, porte-parole du club. Le club de Sousse a annoncé qu'un accord a été conclu avec le technicien français. À 77 ans, l'ancien sélectionneur de la Tunisie s'apprête à retrouver un club bien parti pour se qualifier en phase de groupe de la Coupe CAF, mais en difficulté en championnat où il occupe une décevante 6e place avec un nul et 4 défaites en 5 matchs.
En Europe, Manchester United tient son nouvel entraîneur.
Oui, l'ancien attaquant vedette de Man U, Ole Gunnar Solskjaer, a été nommé entraîneur des Red Devils jusqu'à la fin de la saison en remplacement de José Mourinho, licencié hier. Le Norvégien de 45 ans a joué 366 matchs et marqué 126 buts sous le maillot mancunien entre 1996 et 2007, ce qui lui avait valu le surnom d'assassin au visage d'enfant. Il avait pris la direction de l'équipe réserve de Man U en 2008 avant d'entraîner le club norvégien du FC Molde à partir de 2010. Solskjaer sera secondé par l'ancien adjoint de Sir Alex Ferguson, Mike Phelan, et l'ancien joueur et assistant de Mourinho, Michael Carrick. Le Norvégien dirigera son premier match samedi à Cardiff, un club qu'il a entraîné de janvier à septembre 2014.
Le président de la fédération allemande attaque Infantino.
Reinhard Grindel reproche au président de la FIFA son manque de transparence et exige une meilleure information sur ses projets de nouvelle compétition. Gianni Infantino envisage depuis des mois la création d'une Ligue des Nations mondiales et d'un mondial des clubs élargi à 24 équipes. Le projet de vendre des droits de la FIFA à des investisseurs prêts à mettre 25 milliards de dollars sur 12 ans pour organiser le tournoi des clubs suscite en outre l'inquiétude.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ekiabadou, toujours en votre compagnie, place à présent au dossier du jour et on commence avec la République démocratique du Congo. Vive réaction à Kinshasa après l'interdiction par le gouverneur de la ville de la suspension des activités de la campagne électorale des candidats. Si à la coalition au pouvoir on prend acte de cette décision, à l'opposition on crie à la violation de la loi électorale. Les Kinois, eux, sont partagés entre regret, déception, colère et satisfaction. Reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM. Notre station partenaire à Kinshasa.
La décision a fait l'effet d'une bombe tant les candidats les plus en vue de la présidentielle du 23 décembre prochain comptaient conclure par des grands rassemblements à Kinshasa. Martin Fayoulou de la coalition Lamuka avait même prévu un meeting ce même mercredi 19 décembre à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Le candidat numéro 4 en provenance de Maïndombe a été empêché d'entrer à Kinshasa. Son cortège reste bloqué à Ntsele, à l'entrée de la capitale, comme le confirme ici l'un de ses soutient le ministre d'État Jean-Pierre Lisanga Bonganga.
On ne cédera jamais à la provocation. Nous sommes serrés, en train d'attendre pour que nous puissions continuer à prendre la route avec notre candidat, le numéro 4, Martin Fayoulou, qui est là, bloqué dans sa Jeep.
À la place Sainte-Thérèse, où était prévu le rassemblement de Fayoulou, des militants sont encore très visibles, malgré une présence importante des éléments de la police. Dans le camp de Félix Tshisekedi, on crie au scandale. Jolino Makelele est le porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe.
C'est la énième manœuvre insupportable du pouvoir en vue de rabattre les caquets des opposants. Le pouvoir en place est aux abois. Il voit comment les leaders de l'opposition, en particulier Fachi numéro 20, comment il est en train de drainer des foules. À Kinshasa, c'est l'apothéose. Vous pensez vraiment que le gouverneur Kimbuta, c'est motu proprio qu'il a pris une décision grave comme celle-là? Ce sont les bonzes de la majorité présidentielle qui, pris de panique, sont en train de fomenter des histoires pour décourager la population.
Au Front commun pour le Congo, coalition au pouvoir, Serge Kadima est le porte-parole du candidat Ramazani Shadary.
Au niveau du Front commun pour le Congo, nous étions amplement préparés pour notre meeting de ce vendredi. Vous-même, vous avez vu le mois passé combien la population congolaise était venue répondre au message du candidat Emmanuel Ramazani Shadary au stade Tata Raphaël. Cette fois-ci, c'était prévu que ce soit au stade des martyrs. Mais hélas, aujourd'hui, le gouverneur de la ville interdit à Kinshasa des meetings. Donc, nous prenons acte.
Des avis partagés à la cité où les Kinois sont entre regret, déception et réalisme.
Il n'a pas raison. La campagne électorale prendra fin vendredi le 21 décembre. Il y a les candidats qui se sont déjà préparés afin de tenir leur dernier meeting à Kinshasa. Mais malheureusement, ça vient d'être annulé par le gouverneur.
C'est une décision responsable d'une autorité qui a constaté qu'il y avait péril dans la demeure, que la sécurité des gens qu'il est censé assurer était en danger. Vous savez, en 2011, il y avait même eu des morts. Il y avait deux candidats en ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a trois. Le plus en vue.
Je suis mécontent. En tout cas, qu'on connaît que c'est lui le gouverneur. Il est du côté du pouvoir. C'est ça qu'ils ont fait en 2011. C'est toujours pour bloquer les candidats de l'opposition. L'armée est là, la police est là. Pourquoi pas sécuriser tous les meetings, que ce soit des opposants ou de leur majorité?
Kinshasa, Thierry Kamoudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, au nord Kivu, dans l'est du pays, les électeurs sont partagés entre la crainte des violences et l'espérance de pouvoir voter aux prochaines élections nationales. Aussi, à quelques jours des fêtes de fin d'année, les commerçants déplorent l'absence de clients sur les marchés. Reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, pour ce reportage.
Dans les rues de la capitale provinciale du Nord Kivu, l'ambiance est bien présente dans les quartiers commerciaux. Ici, les musiques chantées à la gloire des candidats pour les élections du 23 décembre se mêlent aux cris des vendeurs. Mais la réalité, cette année, est plus dure. Il n'y a pas de clients. Eric, la trentaine d'âge, nous l'avons trouvé dans son magasin au quartier Biréré.
Je vends les habits, les sacs d'eau et les valises. Ces derniers temps, c'est un peu compliqué. On s'assoit tout simplement pour dire que ça ne marche pas bien. Personnellement, moi, je ne pense pas que les gens ont peur. Il n'y a pas de question de la monnaie. Bon, attendons peut-être après les élections.
Ceux qui craignent les violences post-électorales ont déjà commencé à prendre leurs précautions. Certains s'achètent des vivres comme des haricots ou du riz à lieu et place des habits de fête.
J'ai 11 enfants avec moi. Bien sûr, la fête est là, mais aussi les élections. Et tout ça, il faudrait en tenir compte. Puisque vous savez, les élections partout dans le monde, c'est aussi une guerre en miniature. Et oui, il faudra bien se préparer. Au lieu de se cramponner pour acheter des habits et tout comme ça, moi, personnellement, aussi pour ça.
Maman Brigitte, la cinquantaine révolue, mère de 9 enfants, reste optimiste et appelle tout le monde au calme avant et pendant les élections.
Il y a une crise pour la préparative des fêtes. Je me prépare pour que mes enfants soient heureux le jour de la fête. Pour les élections, je ne suis pas vraiment inquiète qu'elles soient seulement libres, puisque nous ne voulons plus de troubles. Nous en avons déjà vécu. Juste dire que le meilleur gagne.
Dans cette ferveur électorale, dans les quartiers généraux et dans les rues de Goma, les potentiels candidats se sont activés pour cette dernière semaine de la campagne électorale, partageant souvent des billets des banques, d'autres types de cadeaux et bien sûr leurs programmes politiques. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la République démocratique du Congo qui élit ce dimanche 23 décembre le successeur du président Joseph Kabila avec 2 ans de retard. En cette fin de campagne, émaillée par des incidents violents et meurtriers, la peur s'est installée dans le pays. Quels sont les enjeux de ce grand rendez-vous électoral? Le pays se dirige-t-il vers une transmission pacifique du pouvoir ou vers le chaos? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le nombre d'immigrants sans papiers détenus ici aux États-Unis augmente sans cesse et la durée de détention des illégaux est de plus en plus longue. C'est la conclusion alarmante du dernier rapport publié par un groupe de défense des immigrants, comme l'indique ce reportage de Brian Padden rendu par John Lyndon.
Au cours des 2 dernières décennies, le nombre de détenus dans les prisons américaines est passé de moins de 7 000 en moyenne en 1994 à plus de 44 000 cette année. Une tendance accélérée par les mesures radicales de l'administration Trump sur l'immigration. Pour Kirsten Nielsen, secrétaire à la sécurité intérieure, toute personne entrant dans le pays illégalement sera détenue, poursuivie et rapatriée.
Vouloir un emploi ne constitue pas une raison valable pour une demande d'asile au regard de la loi américaine.
Mais pour l'American Immigration Council, un groupe indépendant des défenses et des droits de l'homme, ces mesures ont entraîné une augmentation du nombre de violations allant de la séparation forcée des familles aux conditions des détentions inhumaines. Kirsten Nielsen, secrétaire à la sécurité intérieure.
Nous parlons des droits humains fondamentaux et du strict minimum de protection juridique dont devrait bénéficier toute personne en détention.
Au début de cette année, la politique de tolérance zéro du président Trump, consistant à arrêter quiconque à traverser illégalement la frontière, a abouti à la séparation des enfants de leurs parents. Une politique que Trump a finalement abandonnée suite à un tollé général. Dans le passé, les demandeurs d'asile étaient souvent autorisés à retourner dans leur communauté pour attendre leur jugement au tribunal. Mais l'administration Trump a pris des mesures les forçant à rester en détention jusqu'à la résolution de leur cas. Le rapport de l'American Immigration Council critique le processus de détention des immigrés comme étant dépourvu de responsabilité publique et de transparence. L'organisation s'inquiète des conditions de détention qu'elle juge médiocres ou dangereuses, en particulier dans les établissements de détention privés.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Facebook se retrouve à nouveau au banc des accusés après une enquête du New York Times révélant que le réseau social a partagé les données personnelles des utilisateurs avec des partenaires commerciaux. Selon le journal, parmi 150 compagnies, Spotify, Netflix ou encore la Banque royale du Canada ont pu lire, écrire et supprimer des messages privés. En réponse, Facebook affirme ne pas avoir violé les accords de confidentialité des utilisateurs ni l'accord avec Commission fédérale du commerce qui interdit de partager des données d'utilisateurs sans consentement explicite. Nathalie Barge a joint Komi Afetse, ingénieur de base de données au Pentagone.
Facebook est toujours dans le commercial et tous ces arrangements, c'est toujours dans un but lucratif. Donc, nous ne sommes pas protégés du tout parce que, premièrement, Facebook a au moins 2,2 milliards d'utilisateurs actifs par mois et a acheté Instagram, WhatsApp et toutes ces applications. Donc, c'est une très grande compagnie et qui collectionne des informations privées gratuitement. C'est-à-dire, nous les donnons nos propres informations, ils vous posent des questions, vous répondez et ils connectionnent ça. Et en fait, les règles en place n'étaient pas prévues pour Facebook parce que Facebook, si nous regardons un peu dans le temps, c'est toujours tout nouveau. Donc les règles, les lois en jeu essaient de s'adapter dans chaque continent, mais c'est toujours derrière Facebook. Donc ils ont aussi cette possibilité de manipuler un peu même les lois en place. Et pour cette confidentialité, ce n'est pas toujours respecté. Parce qu'ils vous disent qu'à chaque fois que vous acceptez d'utiliser leur plateforme, vous donnez vos consentements à ce que votre information peut être partagée avec d'autres compagnies qui ont des accords peut-être secrets que nous ne connaissons pas.
On va jusqu'à dire que la Banque royale du Canada, notamment, entre autres compagnies, a pu lire, écrire et supprimer des messages privés d'utilisateurs. On parle aussi d'Apple, à qui il avait été donné le pouvoir de voir les entrées de calendrier. Mais ça va très très loin, là, parce que même les agences de sécurité n'ont peut-être pas autant de pouvoir que cela.
Oui, ils n'ont pas autant de pouvoir, parce que Facebook, ils peuvent lire vos messages, parce que si quelqu'un sait que toi et moi, on se communique, il suffit qu'il voit ce qu'on discute pour savoir mes intentions et tes intentions. Donc cette information est vraiment vitale dans les négociations, dans l'achat d'un nouveau contrat, dans la procuration de beaucoup de choses. Donc en fait, c'est la collection d'intelligence passive qui se fait en longueur de journée et chaque information est vitale pour les grandes décisions des banques sur leur orientation et tout ce qui se passe dans la vie active d'aujourd'hui.
Mais dans le cadre de la banque, ça peut être très grave parce qu'elle peut donc espionner les conversations privées de ses clients.
Oui, absolument. Et c'est là vraiment que les lois doivent rapidement être mises en place pour pouvoir limiter ces genres d'accès parce que ces informations peuvent se tourner dans des mauvaises mains et puis bon, on peut s'y attendre vraiment à un désastre à cause de ça.
Komi Afetse, ingénieur de base de données dans la région de Washington.
Le Monde aujourd'hui vous convie du lundi au vendredi à une édition spéciale sur les élections en République démocratique du Congo. Rendez-vous tous les jours avant et après les élections en RDC à 17h45, 18h45, 19h45 temps universel et dans le matinal pour des reportages, analyses et réactions des citoyens ordinaires et toute la classe politique. Le dimanche 23 décembre, jour du scrutin, nous vous proposons trois éditions spéciales. De 14h30 à 15h temps universel, de 18h30 à 19h temps universel et de 20h à 21h temps universel. Nous aurons aussi deux éditions spéciales en Lingala de 14h à 14h30 temps universel et de 16h à 16h30 temps universel. La Voix de l'Amérique toujours à votre service pour une information juste et équilibrée. Écoutez VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Un Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Bill Intoyer. Et à la présentation, Ekiabadou. On reste connectés sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.
Les passagers